BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Car l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. La blockchain en contient une fraction. On vous en parle chaque vendredi, les pros des cryptos. Avec, pour nous accompagner, Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen Simonin est avec nous aussi en visio à distance. Bonjour Owen.
On est ravi
aussi de vous retrouver, alias Asher, hein, votre chaîne YouTube Asher et votre société Just Mining, bien sûr. Et puis Xavier Feneau, toujours avec nous pour Interactive Trading. On va démarrer, tiens, avec vous, Xavier, pour mesurer le potentiel d'appréciation des crypto-monnaies. D'abord, le roi Bitcoin, qui a refranchi tout à l'heure à la hausse la barre des 50 000 dollars. Est-ce qu'à votre avis, cette fois, il l'a refranchi durablement ?
Alors durablement, il a quand même beaucoup de mal. Hein. C'est vrai que disons, l'été fut chaud quand même. Alors pas partout, mais sur le marché des cryptos, c'était quand même très très chaud. On a eu une terrible période du mois de mai-juin jusqu'à mi-juillet. Fin juillet, on a entamé ce qu'on appelle une reprise dans bull run après des tests successifs de belles zones techniques hebdomadaires. On en avait parlé longuement parce que ça a duré quand même 2 mois, notamment sur le 3 mois sur les bitcoins. C'était les 30 000 dollars. Et sur beaucoup d'autres cryptos, on a rallié justement ces grosses zones. La capitalisation depuis un mois et demi sur l'ensemble du marché des cryptos a fait x2. Donc en un mois et demi, on passe les 2200 milliards de dollars. On est encore à 10-12% des records historiques, donc il y a peut-être encore un petit peu de potentiel pour rallier les 2600 milliards. Après, encore une fois, une perte de 50%. Donc la tendance reste haussière. Pourquoi je parle de la capitalisation totale? Parce que finalement, si on regarde que le Bitcoin, depuis maintenant quelques semaines, alors il n'y a que maintenant qu'aujourd'hui qu'il repasse, vous venez de le dire, cette zone des 50 000 dollars, ça reste quand même un petit peu poussif, mais la capitalisation totale, finalement, nous permet de matérialiser une tendance haussière à l'aide de ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. Donc tant qu'on reste au-dessus, pour le moment, on est optimiste, je prends ce point de repère, puisque ça nous permet justement d'avoir une vision globale. Et la même manière d'ailleurs sur l'Ethereum, comme sur le Bitcoin, il était bloqué sous une zone de résistance sur l'Ethereum, c'était 3340 dollars, et il s'en est extrait il y a 4 jours. Et depuis 4 jours, l'Ethereum, à ce qu'on appelle dans le milieu des cryptos, a pumpé de 18%. Donc oui, pour le moment, l'optimisme est continu, en tout cas depuis le début du mois d'août, si on sort un petit peu du schéma du Bitcoin qui était coincé autour des 48 000 dollars depuis maintenant quelques semaines.
Bon, il n'y a pas que le crypto, que le Bitcoin et l'Ethereum dans l'univers crypto, il y en a d'autres, des crypto-monnaies. Il y a un peu plus de 2 mois, d'ailleurs, c'était le 18 juin, Xavier, vous nous disiez que Solana, une des nombreuses cryptos qui existent sur le marché, Solana, c'est la crypto qui offre le plus de potentiel pour la suite. C'est le 18 juin que vous nous disiez cela. C'était votre appel du 18 juin, Xavier. Est-ce que votre prévision s'est avérée juste? Est-ce que cette crypto-monnaie s'est envolée depuis votre prédiction favorable?
Déjà, c'est vrai que le premier point, vous l'avez dit, il n'y a pas que le Bitcoin. Alors, il n'y a rien de dramatique, puisque au contraire, le Bitcoin a quand même pris 60% depuis fin juillet. Donc, on reste quand même sur des performances assez exceptionnelles si on le compare notamment au marché traditionnel. Donc, c'est déjà très bien, mais c'est vrai qu'il y a d'autres cryptos, notamment, alors par exemple, Cardano, qui a été multiplié par 3 depuis, Avax, qui a été multiplié par 6, et effectivement, Solana, on en parlait, donc on était à 35 dollars à ce moment-là, et aujourd'hui, Guillaume, elle est à 140 dollars, fois 4. Alors, porté par les NFT, je crois que ça va être un petit peu la thématique du jour et c'est la grande thématique du mouvement. Donc, des performances assez exceptionnelles. Et c'est vrai que voilà, on a un écosystème finalement crypto qui n'a pas changé. Hein. Même d'ailleurs, entre le mois de mai et le mois de juin, on a perdu 50%. L'écosystème continuait quand même à se développer. Mais là, c'est vraiment positif. Alors, peut-être aussi porté par l'envolée justement de cette thématique des NFT, les applications qui se développent. Et peut-être des marchés traditionnels un peu lents, perfusés par la Fed. Donc, bonne surprise pour cette rentrée, en tout cas pour les holders. Beaucoup de travail, en tout cas, au mois d'août pour pouvoir accompagner justement cette dynamique haussière.
Alors, vous restez avec nous, Xavier. Vous nous direz s'il est encore temps justement de se positionner sur ces cryptos compte tenu du fait qu'elles se sont déjà pas mal valorisées quand même ces derniers mois, grâce en effet à l'euphorie autour des ce que vous appelez les NFT. Ce sont les tokens, les jetons non fangibles qui font aussi une grande part de la blockchain. On va en parler justement de cette euphorie autour des NFT qui semble ne jamais pouvoir s'arrêter. En tout cas, cet été a été assez euphorique à son tour. On a de plus en plus de stars qui ont fait l'acquisition claire de NFT, une start-up française aussi qui aide les acteurs de la supply chain à déployer des solutions. Et bien sûr, cette spéculation incroyable autour des œuvres d'art, elle intéresse même les plus gros acteurs désormais, cette spéculation sur les NFT. Visa, mesdames et messieurs, le Louis XIV, le Louis XV, comme vous voulez, du paiement. Visa achète un CryptoPunk, on est bel et bien en 2021. Quel est l'intérêt pour une institution comme Visa, le Louis XIV, le Louis XV, du paiement, de s'intéresser à ce genre d'œuvres et à ces tokens non fongibles?
L'intérêt, c'est de rester dans la course, en fait. La stratégie de Visa sur les cryptos, elle n'a pas commencé avec les NFT. Souvenez-vous, Visa était dans le consortium Libra de Facebook, alors il s'en était retiré. Depuis, ils ont fait du settlement aussi en USDC avec une entreprise qui s'appelle Anchorage. Donc, Visa a commencé sa stratégie crypto il y a plusieurs années déjà. Et les NFT, c'est vraiment la suite logique. Alors, leur head of crypto a déclaré que c'était aussi pour eux un moyen d'apprendre, que c'était un moyen de soutenir les créateurs. Mais on voit bien qu'il y a un intérêt de positionnement pour Visa, de se dire que demain, ils ne seront pas juste l'intermédiaire de confiance dans les milieux financiers traditionnels, mais qu'ils seront aussi un intermédiaire de confiance dans les milieux crypto.
C'est ça que joue aujourd'hui Visa en s'intéressant à un crypto-punk.
C'est
Visa
ça.
S'intéresse à un crypto-punk.
Les crypto-punks, vous savez, c'est ces sortes de personnages qui sont émis, qui sont stockés aussi sur la blockchain Ethereum, et donc qui sont uniques. Il y en a à peu près 10 000. Et les prix sont assez élevés. Je crois que Visa a acheté son CryptoPunk pour 165 000 $. Donc on est quand même sur des sommes importantes.
Si même Visa s'intéresse au CryptoPunk, on a raté sa vie si on n'a pas de NFT. C'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, ce que je dis, c'est que clairement, c'est un marché porteur.
Bon, est-ce que cette spéculation va continuer à croître, ou alors cette bulle sur les tokens va quand même finir par s'arrêter en laissant la place juste aux usages utiles et un peu moins baroques ou inutiles, Owen?
Alors, quoi qu'il arrive, faut le rappeler, il n'y a pas que des NFT qui ont une valorisation en tant qu'œuvre. Il y a également des NFT qui ont une valorisation en tant qu'utilisation. C'est-à-dire que certains NFT peuvent donner des accès. Certains NFT sont là pour garantir le fait qu'une œuvre d'art, c'est bel et bien l'œuvre authentique et non pas une contrefaçon. Et ensuite, il y a cette fameuse tendance des NFT qui ont une valeur artistique et qui peuvent s'acheter très très cher. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a une valorisation structurelle. On sait qu'actuellement, quelle que soit l'idée ou quel que soit l'usage qu'il y a derrière, si c'est un NFT, ça peut marcher parce que c'est à la mode. Naturellement, à un moment, ça va s'essouffler. Malgré tout, il y a une tendance qui est en train de faire parler d'elle très fortement et qui risque de venir tout simplement prolonger ce premier souffle et cette tendance sur les NFT. Ou alors, si les NFT s'essoufflent, lui donner un second souffle en donnant encore plus d'intérêt, c'est le play to earn. Alors, dans le monde du jeu vidéo, on connaît les jeux par abonnement. Tous les mois, on va payer pour avoir le droit de jouer, comme le fameux World of Warcraft de Blizzard, un jeu mondialement connu, où on va payer tous les mois un accès. Ensuite, il y a eu le free-to-play. Le jeu est gratuit. On peut jouer gratuitement à un jeu vidéo, sauf qu'on peut payer pour avoir des avantages, pour avoir des armures, etc. Et là, il y a une nouvelle tendance qui arrive très très fort dans le monde de la crypto-monnaie, c'est le play-to-earn. On joue à un jeu. Dans ce jeu, on peut gagner des NFT, NFT qui ont une certaine valeur et qu'on va pouvoir revendre. Certains joueurs vont aller jusqu'à gagner 50 ou 100 euros par jour en jouant à ce genre de jeu. Donc 100 euros par jour en Europe, c'est une très belle somme. À la fin du mois, ça fait vraiment, vraiment un montant intéressant. Imaginez pour certains pays en développement ce que ça peut représenter avec un simple téléphone et Internet de gagner 100 euros par jour. Il y a même des organisations comme par exemple Blackpool qui vont aller commencer à investir dans différentes plateformes, différents jeux, former des gamers et aller justement exploiter cette technologie du play to earn afin de maximiser les revenus qu'ils arrivent à générer avec les fonds qu'il y a dans leur organisation.
L'euphorie autour des NFT, les usages utiles aussi qui sont en train peu à peu de prendre leur place quand même sur le marché. On aura largement l'occasion d'en reparler. On va revenir maintenant aux crypto-monnaies back to basics. Alors que la bourse s'envole, les prix de l'immobilier s'envolent, qu'on entend parler beaucoup d'inflation en ce moment, dans l'univers des cryptos, il y a un acteur qui nous parle lui au contraire de déflation, une déflation organisée et pilotée. Mesdames, messieurs, cet été, Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, a mis en place une implémentation technique qui vise à rendre l'Ethereum, oui, plus déflationniste. De quoi on parle là, Owen? C'est quoi ce protocole que compte mettre en place Ethereum pour viser un objectif de déflation?
Alors, il a été mis en place. Déjà, je remets le contexte. Le réseau Ether est un réseau qui est très congestionné parce qu'il est très utilisé. À tel point qu'à certains moments, les mineurs, qui sont les ordinateurs qui veillent au bon développement du réseau et au déroulement des transactions, vont naturellement favoriser les transactions avec le plus de frais. Pourquoi sécuriser une transaction avec 2 euros de commission quand on peut en sécuriser une qui va rapporter beaucoup plus aux mineurs? Naturellement, il y a des moments où le réseau est congestionné et à ce moment-là, ce sont les gens qui acceptent de payer le plus de commission qui voient leurs transactions acceptées et validées en premier. Naturellement, c'était pas juste et on attend cette fameuse mise à jour d'Ether 2.0, une grosse mise à jour qui va permettre de réduire drastiquement les délais entre les transactions, mais également ses coûts. En attendant qu'il y ait cette transition, on a essayé de lisser les frais qu'il y avait sur le réseau Ether pour en gros faire en sorte que ce ne soit plus intéressant de payer beaucoup plus que les autres, notamment pour les gros porteurs, histoire de faire en sorte que tout le monde ait à peu près la même chance de voir sa transaction validée en un temps moyen raisonnable. Ce qui se passe, c'est qu'il y a donc eu une proposition de mise à jour qui s'appelle l'EIP 1559. Cette mise à jour a été validée, hein, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, elle est déjà effective. Et cette mise à jour apporte deux choses. Premièrement, le fait que à partir d'un certain nombre de frais de transaction, ça ne sert à plus rien. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et donc, ça vient lisser le frais moyen d'une transaction. Et quand le réseau décolle et qu'on se retrouve à payer une fortune en frais, naturellement, ça va venir abaisser assez rapidement ces frais de transaction pour qu'ils redeviennent cohérents avec l'état du réseau. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie de ces excédents de frais et une partie des éthers qu'il y a dans chaque nouvelle transaction de chaque bloc va être brûlée. Alors, rappelons qu'à la base, Ether est un modèle inflationniste. Il y a à l'heure actuelle environ 9 nouveaux éthers générés toutes les minutes qui sont distribuées aux mineurs. Maintenant, c'est toujours inflationniste, il y a toujours ces 9 nouveaux éthers par minute, mais on va brûler une certaine quantité d'éthers, en moyenne 4 à 5 par minute, c'est-à-dire environ 50% des nouveaux éthers créés. Donc la bonne réponse, c'est pas de dire qu'Ether est déflationniste, mais comme vous l'avez dit, Guillaume, un peu plus déflationniste puisqu'on est venu réduire son inflation. Et il y a même des moments où les frais explosent, les frais Ether sont très très hauts, et à ce moment-là, pendant quelques minutes, on brûle plus d'Ether que les nouveaux Ether générés. Et donc, on peut même dire que pendant quelques minutes, chaque jour, l'Ether est déflationniste.
Et à la fin, ça sert à quoi, Claire, viser la déflation, Ether un peu plus déflationniste, Bitcoin aussi qui propose peut-être, vous allez nous dire, un mécanisme similaire?
Alors, c'est vraiment des politiques monétaires très différentes, hein. Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas du tout ce protocole-là sur Bitcoin. En fait, Bitcoin, l'émission monétaire, elle est connue à l'avance. Elle est connue jusqu'en 2140, quand sera émis le dernier Bitcoin. Et le nombre de Bitcoin émis à chaque bloc est divisé par deux tous les 4 ans. Et donc, on émet de moins en moins de Bitcoin. Et ça, c'est connu depuis le démarrage, contrairement à Ethereum, où c'est un peu plus flou, je dirais. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Ether n'a pas tellement été conçu comme une monnaie, mais plutôt comme un droit d'accès au réseau. Puisqu'on a besoin d'Ether pour faire fonctionner des applications sur Ethereum.
Les usages.
Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes volontés, les mêmes applications, les mêmes ambitions non plus. Mais effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que Ethereum essaye d'avoir lui aussi cette inflation plus contrôlée ou cette déflation. Alors peut-être que ça va leur permettre de concurrencer Bitcoin, même si on n'est pas du tout sur les mêmes types de réseaux. Et en tout cas, on voit bien que l'idée aussi, enfin, c'est ce qui fait pumper l'Ether, c'est ce qui joue sur le cours de l'Ether, le fait de savoir que l'émission va diminuer.
Voilà, ce mode d'emploi aussi qu'on essaie de vous apporter, que nos spécialistes, nos experts essaient de vous apporter chaque semaine dans ces pros des cryptos. Alors, on a beaucoup de questions pratiques aussi, justement, d'auditeurs, téléspectateurs, qui nous demandent assez régulièrement, d'ailleurs, comment éviter les hacks. C'est vrai qu'on a encore vu cet été des problèmes de sécurité. On a vu des vols de fonds sur des protocoles décentralisés, un vol de plus de 600 millions de dollars, mais qui ont finalement été restitués, mais quand même, 600 millions de dollars. Et cette question de la sécurité, donc, qui se pose et que nous envoient pas mal de particuliers régulièrement. Comment éviter ces hacks? Quelles mesures prendre quand on est investisseur pour sécuriser ces crypto-monnaies, Owen?
Alors, là, c'est particulier parce qu'il y a une double réponse. Pour sécuriser ces crypto-monnaies, il faut prendre soin de sa clé privée, un espèce de mot de passe, très simplement, que l'on doit fournir à la blockchain quand on veut faire une transaction pour bien prouver qu'on est le propriétaire d'un compte. Là, en l'occurrence, si les gens avaient bien protégé leur clé privée, certains hacks, on ne peut pas les éviter. En effet, il y a eu un très gros hack cet été de 600 millions de dollars approximativement, et c'était des gens qui protégeaient bien leur clé privée. Par contre, ces personnes avaient décidé de déléguer de la liquidité, donc d'envoyer leur crypto-monnaie à un protocole qui se devait de respecter certaines règles et de restituer les fonds avec une commission aux utilisateurs. Le problème, c'est que c'est ce protocole qui était faillible et c'est ce protocole qui s'est fait hacker, non pas les utilisateurs. À ce moment-là, les utilisateurs, le seul moyen de ne pas se faire hacker quand on met de l'argent sur un protocole, c'est de ne pas mettre d'argent sur ce protocole. Donc, faut en avoir conscience. Faut bien les sélectionner. Malgré tout, le protocole tenait presque 1 milliard de liquidités. C'était un protocole qui était très sérieux et on va voir que l'histoire de ce hack est d'autant plus intéressante parce que premièrement, c'était le plus gros hack de l'histoire de la finance décentralisée. Donc, c'est quelque chose on se rapprochait du milliard. C'était encore pas arrivé sur des protocoles DeFi. Et, en l'occurrence, la personne qui a réalisé le hack a restitué 100% des fonds. Et ça, on le voit très rarement. Alors, à savoir quand même que cette personne, le hacker, s'appelle MR White Hat. Et les White Hat, ce sont des hackers éthiques qui viennent tester des protocoles, qui arrivent à réaliser un hack, qui vérifient qu'on règle bien la faille et qui restituent les fonds, ou alors qui collaborent avec le projet pour régler le problème. En l'occurrence, il aurait bien pu alerter de la faille sans l'utiliser, mais il a préféré prendre les 600 millions et dialoguer avec le protocole en disant « Voilà, je vous ai pris votre argent, je n'ai aucune volonté de l'avoir, je vais vous le rendre, mais avant, vous nous fournissez la preuve que vous avez été audité et que vous réparez bien ce problème pour que personne ne puisse utiliser la faille que je viens d'utiliser. » Et l'histoire est assez folle, puisque, comme vous le savez, dans la blockchain, on peut faire des transactions. Mais une transaction, c'est pas que des bitcoins ou que des ethers. Une transaction, ça peut être du texte. Et c'est comme ça que le hacker a communiqué avec le projet. En utilisant l'adresse qu'il avait utilisée pour dérober les fonds, il a envoyé des transactions et il a communiqué avec le projet, et c'est comme ça qu'ils ont pu parler ouvertement sur la blockchain et que tout le monde a pu suivre leur espèce de discussion finalement pour en arriver au point où il a remboursé les fonds et il a obtenu un demi-million de dollars de compensation du projet qui a voulu le récompenser.
Et vous le disiez, c'est dans son nom, c'est un white hat. Il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit. Un de ces white hat a d'ailleurs contribué à prévenir un vol potentiel de 350 millions de dollars. Je sens qu'il va vraiment falloir s'habituer à ce terme de white hat. C'est quoi, Owen, un white hat? À quoi servent ces white hats? Comment contribuent-ils à l'écosystème?
Alors, c'est un hacker qui se dit éthique, hein. Encore une fois, il n'y a que dans ses actes qu'on peut vérifier qu'il est bien éthique. Ça existe dans le monde traditionnel de l'entreprise. Sauf que dans le monde de l'entreprise, c'est contractuel. On va tout simplement contacter une entreprise qui fait de l'audit de sécurité. On va lui dire, voilà, on va te demander d'attaquer notre protocole, de trouver des failles, de trouver des bugs qui vont être de plus ou moins critiques. Plus la faille est critique, plus on va vous rémunérer. Moins la faille est critique, moins on va vous rémunérer pour votre travail. Ce qui permet, en fait, ça constitue un audit et ça permet de régler des failles. Il y a même des entreprises qui mettent en place des bounty programmes en disant, voilà, toute faille de telle importance, on rémunère tant. Toute faille de telle importance, on rémunère tant si quelqu'un arrive à nous permettre de corriger le bug et de limiter le risque de notre entreprise. Dans le monde de la blockchain, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas contractualiser avec une blockchain. Et certains projets le font, mais d'autres ne le font pas suffisamment. Et il y a donc des hackers, des white hat, qui généralement trouvent une faille et proposent au projet, écoute, moi, je veux bien restituer les fonds si vous me proposez quelque chose de raisonnable pour mon travail. Évidemment, il y en a qui se font passer pour des white hat, mais qui ne le sont pas vraiment. Bref, c'est encore assez fou dans le monde de la blockchain, mais ça contribue à la sécurité du réseau.
Ouais, ils vont dire qu'ils sont corsaires ou pas pirates. Ce sont des corsaires, ils le font au nom de l'éthique et du bien commun. C'est intéressant, voilà, ça fait partie aussi de l'écosystème de la blockchain et de ces crypto-monnaies dont on vous parle chaque vendredi dans les pros des cryptos. Il y a de plus en plus de rendez-vous d'ailleurs, Claire, consacrés aux cryptos, des grandes conférences, signe que cet écosystème continue de se constituer. On parlait beaucoup au début de l'été de l'ETHCC, un événement qui tourne autour de l'Ethereum. Et puis la semaine dernière, il y a eu cet autre grand Raoul de l'univers de la crypto, Surfing Bitcoin, c'était à Biarritz. Vous y étiez d'ailleurs, Claire, oui. Vous y avez participé à des conférences. Qu'est-ce qui est ressorti de ce rendez-vous?
Alors, Surfing Bitcoin, effectivement, c'était 100% Bitcoin, donc on ne parlait pas tellement d'autres crypto-monnaies ou très peu. Il y avait deux niveaux de difficulté. Le jeudi, c'était pour les gens qui connaissaient déjà très bien Bitcoin, et puis le vendredi, c'était, je dirais, accessible à tous. Il y a plein de thématiques qui étaient abordées. Les deux principales, je dirais, c'était d'un côté Lightning Network, qui est une sorte de protocole qui fonctionne par-dessus Bitcoin, et qui va permettre de rendre Bitcoin plus scalable, donc de faire plus de transactions sur Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui est limité à peu près 7 transactions par seconde, ce qui est très peu. Et donc là, l'idée, c'est de faire des transactions off-chain, donc hors de la blockchain, et de n'inscrire dans la blockchain que cette réconciliation des transactions. Donc ça va permettre de rendre Bitcoin beaucoup plus scalable. Et puis la deuxième thématique qui est ressortie, qui est très à la mode aussi, c'est le lien entre Bitcoin et écologie, puisqu'il y a beaucoup de critiques sur les... Oui. Éventuels dégâts environnementaux que causerait Bitcoin. Et là, justement, l'ambition, c'était plutôt de montrer que Bitcoin peut être un atout pour la transition énergétique. Vous vous souvenez qu'il y a quelques émissions, on avait reçu Sébastien Gouspillou ici, qui nous avait expliqué son travail au Salvador. Et donc là, il a pu répéter à quel point Bitcoin pouvait être un atout dans son minage pour financer les électricités renouvelables.
Surfing Bitcoin qui a eu lieu, c'était il y a une semaine.
Ouais.
Exactement. Sauf que ce sont des rendez-vous encore très communautaires. Est-ce que la vraie victoire ne sera pas quand on parlera aussi crypto-monnaie dans des événements de la finance traditionnelle? Est-ce que d'ailleurs on va parler crypto-monnaie dans les futurs événements, ceux qui sont prévus pour les prochaines semaines de la finance traditionnelle?
Alors oui, c'est déjà un peu le cas. Il y a certains événements, alors notamment ceux qui parlent fintech en général, qui incluent déjà un petit bout de crypto-monnaie. Mais c'est vrai que la crypto-monnaie fait parfois encore un peu peur aux acteurs de la finance traditionnelle, mais on sent que ça arrive petit à petit, surtout dans les événements anglophones. Mais voilà, je vois qu'en France, beaucoup d'acteurs bancaires traditionnels s'intéressent de plus en plus à la crypto. Et donc, je pense que la crypto va prendre une place majeure. Alors après, c'est toute la question de la compatibilité entre l'idéologie des acteurs crypto et l'idéologie des acteurs traditionnels.
Bon, il y aura le sommet BFM Patrimoine. On essaiera aussi de pousser un peu cette thématique crypto. C'est pas encore gagné, on promet rien. Mais voilà, ce sommet, il aura lieu fin novembre. Et on va essayer aussi de poser notre pierre dans cet édifice, durable. Alors, ça dépend d'un point de vue écologique. Il peut y avoir une discussion, mais durable. En tout cas, on est au début d'une longue aventure en ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Crypto-monnaies dont on va continuer de mesurer le potentiel pour la suite. Xavier Fenon est toujours avec nous. Vous êtes là, Xavier ?
Oui.
Pour Interactive Trading, on parlait justement de ces cryptos qui présentent plus ou moins de potentiel pour la suite. Vous avez parlé du potentiel technique du Bitcoin aussi pour la suite. Sauf que la plupart des cryptos, en tout cas celles que vous mettiez en avant, ont bien progressé déjà cet été. Est-ce qu'il est du coup déjà un peu tard pour se positionner dessus à vos yeux ?
Ben c'est vrai que rentrer maintenant, c'est un peu ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper un mouvement et se dire « bon, ben j'ai encore raté le train, maintenant qu'elles ont fait x3, x6, ça risque d'être un petit peu plus compliqué ». Et en même temps, c'est vrai que ce sont les plus fortes, celles qui ont été les plus fortes ces dernières semaines, qui ne montrent absolument aucun signal de repli. Donc c'est très difficile de se positionner, notamment sur des phases de repli. Donc comment faire maintenant ? Eh ben on peut continuer à travailler, c'est ce qu'on va faire. On le voit d'ailleurs depuis quelques jours, on a parlé de l'Ethereum qui s'est repris d'un coup en 4 jours, et il y en a d'autres, comme l'UTA, EGLD, il y en a plein d'autres qui essaient de rattraper leur retard, entre guillemets. Et il y en a quelques-unes qui le sont encore, qui sont encore en retard. J'en cite quelques-unes, mais il y en a d'autres. Le Litecoin, par exemple, le petit frère du Bitcoin, Chiliz, le Bitcoin Cash, et il y en a plein d'autres. En fait, il y a une sorte de rotation qui peut s'opérer. Donc, c'est vrai que pour le moment, l'attitude du marché est quand même positive. On n'est pas dans l'euphorie. Donc oui, il y a encore du potentiel. Il y a certains indicateurs qui montrent qu'on n'est pas encore dans l'euphorie. Attention quand même au piège de la rentrée, hein. Même si c'est vrai que cet enthousiasme peut encore durer, souhaitons-le, encore quelques jours, quelques semaines, voire peut-être même plus. Mais il faut pas que ça se transforme en euphorie. On sait très bien que l'euphorie, ça se termine souvent par des mouvements de panique. Ces phases de latérisation sont très importantes pour le marché. Donc ne pas oublier, en fin de journée, en fin de semaine, de nettoyer ses portefeuilles, ne pas se surexposer, relever régulièrement les stop-loss pour accompagner cette tendance. Donc bref, pour le moment, on a la rentrée. C'est la rentrée. Bonne rentrée d'ailleurs à tous. Restez optimistes, mais pas euphoriques pour éviter les mauvaises surprises.
Merci beaucoup. Xavier Fenot, Owen Simonin, Claire Balva, nos trois experts, des pros des cryptos, Vincent Gann qui nous rejoindra également à partir de la semaine prochaine. C'est parti pour une nouvelle saison. On était ravis de vous retrouver tous les trois. Merci beaucoup.
Merci.
Claire d'être passée sur notre plateau. Claire Balva pour KPMG France et Blockchain Partner. Owen Simonin, sa chaîne Asher et Just Mining, bien sûr, aussi, si vous vous intéressez à ces crypto-monnaies. Et puis Xavier Fenot depuis Interactive Trading. Salut, bonne fin de journée, bon week-end à tous les trois. Vous pouvez retrouver les pros des cryptos également en podcast et sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC 40 est toujours en baisse d'un peu plus d'un pour cent. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour et à ce rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a déçu les investisseurs quand on regarde les créations de postes, en tout cas bien inférieures aux attentes. En revanche, les salaires, eux, accélèrent encore. On s'en reparle dans un instant. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.